The presentation will be 20 minutes, then we have 5 minutes of question period, and then the other presentation will start.
Thank you. Merci. I'm sorry for my spoken English is not well, it's not good enough to present. Donc je vais vous parler du cerveau à tous les niveaux d'un exemple de partage des connaissances sur Internet. Alors, est-ce que ça fonctionne comme ça? Comme ça? Ouais. Je crois qu'il faut que je dise que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, est-ce que je cache comme ça? Non? Ça va? Donc, je rédige ce site-là depuis plus de 7 ans maintenant. C'est donc un site web sur le cerveau et sur les comportements humains. Juste par curiosité, est-ce qu'il y en a qui le connaissaient déjà avant de venir à la conférence? Oui? OK. Donc, je vais vous parler de ces 4 points-là. Je vais commencer par parler de la petite histoire du site rapidement parce que... Elle permet d'expliquer son mode de navigation. Je présente souvent ce site-là comme ma réponse, en fait, à un certain nombre de frustrations ou de problèmes ou de frustrations que j'ai eues pendant la dizaine d'années où j'ai exercé le métier de vulgarisateur scientifique, de rédacteur scientifique, tant pour des magazines comme Québec Science que comme pour des séries télé pour les jeunes comme Les Débrouillards. La première frustration vient du fait que quand on vous demande, par exemple, d'écrire un article pour un magazine, eh bien, il y a des contraintes d'espace. Si on vous dit, par exemple, d'écrire sur une nouvelle région du cerveau qui est impliquée dans la mémoire, très vite, on vous demande d'expliquer les différents types de mémoire et puis ensuite de vous concentrer sur ce que cette nouvelle région-là peut apporter au phénomène de la mémoire. Mais on ne va pas rentrer dans les détails des connexions synaptiques, de la synapse, des récepteurs. Pourtant, toutes des choses qui jouent quand on parle de la mémoire. Ma deuxième frustration, c'est la question du niveau de langage à utiliser. Bien sûr, quand on veut s'adresser au grand public, surtout avec un sujet comme le cerveau, qui est une complexité sans fin, c'est sûr que comme quand j'expliquais des choses pour l'émission Les Débrouillards pour les 12-13 ans, ma grand-mère pouvait très bien me suivre mes explications, mais des scientifiques comme vous, sans doute, s'ennuieriez assez vite. D'autre part, si on rentre moindrement dans les détails, ben je perds ma grand-mère. Mais moi, je veux que ma grand-mère s'intéresse au cerveau. Donc, il y avait cette frustration-là aussi de savoir quel niveau de langage toujours adopter. Et la troisième frustration, j'y reviendrai un petit peu plus tard, ben, c'est celle de l'image de la science un peu qui est véhiculée dans les grands médias. Pas tant le côté sensationnaliste, mais quelque chose de plus insidieux. Quelque chose qui relève de l'idée que les gens se font de la recherche scientifique. J'ai l'impression que il y a des études qui le montrent aussi, que les gens se font une idée très très linéaire et très lisse de ce qu'est la recherche scientifique. Et j'ai voulu, avec certains aspects du site, montrer que ça pouvait être quelque chose d'un peu plus organique, d'un peu plus chaotique, en fait. OK, c'est un petit peu trop tôt. Donc, l'histoire de ces sites-là commence en 2000. Alors, j'ai voulu, comme remédier à mes frustrations, j'ai décidé de concevoir un site où je pourrais résoudre tout ça. Et, en fait, au début, ça partait donc de motivation très, très personnelle et j'ai eu une subvention du gouvernement du Québec pour, pendant 9 mois, commencer le site. Au bout de 9 mois, j'ai dû chercher du financement. J'ai essuyé plusieurs refus parce qu'on me disait que mon projet était trop vaste, était mal ciblé. On me disait « Pourquoi tu fais pas un site sur la vision ou sur l'effet des drogues? » Mais moi, je trouvais qu'il y en avait déjà beaucoup, des très bons sites sur la vision ou l'effet des drogues. Et moi, je voulais, en un même lieu, essayer de parler de tout en même temps. Alors, j'ai été un peu... comme ça, barouetté d'un bord puis de l'autre. Et puis, à un moment donné, j'ai été sur le site de l'Institut l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies, et j'ai vu qu'ils avaient des objectifs exactement similaires à mes intentions, mais qu'ils n'avaient rien en ce sens dans leur site. Alors, je suis arrivé, j'ai demandé à parler à Rémi Quérion, qui était jusqu'à tout récemment le directeur de cet institut-là, et je lui ai proposé ma solution un peu clé en main pour rapprocher, comme il disait, les chercheurs du public et les patients Et finalement, après une heure de discussion, il a accepté de me financer et il me finance depuis 7 ans presque maintenant. Sauf que, comme c'est un gros institut avec très peu de budget, malheureusement, ce que j'ai obtenu, c'est un poste de 4 jours semaine. Et comme je ne sais pas tout faire sur le web, moi, je m'occupe de la recherche, de la rédaction, de la coordination. Patrick Robert s'occupe de la programmation, Denis Paquet du graphisme et des animations. Et Al Dagan fait la traduction anglaise du site et lui est payé par les instituts de recherche en santé du Canada parce que je rédige donc le site en français. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur la chaîne de production qui nous permet de produire ce contenu-là, simplement arriver à la fin puis attirer votre attention sur le fait que tout ça se retrouve sur le web. Donc, on en a entendu très bien parler ce matin, accessible 24 heures sur 24 partout dans le monde. Et je voulais juste vous montrer que quand même, depuis la conception du site en 2000, à ce moment-là, c'était pas évident que c'était accessible. Ça l'était, mais il y avait seulement 33%, par exemple, des foyers québécois qui étaient branchés. En 2002, quand j'ai vraiment mis le site en onde, ça s'était passé à 42%, et les chiffres que j'ai trouvés pour 2008, c'est plus de 72% des foyers québécois qui sont branchés. La plupart à haute vitesse, et pour les foyers qui ont des enfants d'âge scolaire, c'est de 90%. Donc, on peut vraiment dire que maintenant, c'est accessible. Voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est d'inclure mes deux solutions à mes deux grandes frustrations dans l'ergonomie même du site, pour que les gens, à chaque fois qu'ils ont à interagir avec le site, ils pensent qu'il y a différentes choses qui se passent à différents niveaux et qu'ils puissent choisir aussi leur niveau de difficulté. Donc, il y a deux boîtes de navigation en haut de chaque page du site. Il y en a une qui permet aux utilisateurs de choisir leur niveau d'explication. Alors, j'en ai défini 3. Débutant, qui s'adresse vraiment à monsieur, madame, tout le monde, j'essaie d'utiliser le moins de jargon possible. Intermédiaire, qui peut-être correspond aux gens qui sont habitués aux revues de vulgarisation scientifique. Et avancé, qui correspond peut-être à des gens qui sont dans un domaine scientifique, mais dont les neurosciences ne sont pas leur domaine principal. D'autre part, il y a une autre boîte de navigation, comme on va le voir, on va aller sur le site voir ça tantôt. Je laisse les gens choisir le niveau d'organisation qui les intéresse. Alors, j'en ai défini 5, il y en a évidemment plus que ça, mais j'ai arrêté mon choix sur les niveaux moléculaires, les neurotransmetteurs, les molécules, cellulaires, les neurones, les circuits de neurones, cérébral, le cerveau, plus d'un point de vue macroscopique, psychologique, ce qu'on ressent subjectivement, et même social, l'interaction de plusieurs individus, de plusieurs cerveaux ensemble. Donc là, je vais aller vous montrer concrètement sur le site à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si la souris ne semble pas fonctionner. De reconnaître, on dirait. Ah oui, voilà, OK. Je vais pas préparer ça. Donc, quand on arrive... sur le site, on est sur la page d'accueil. On a 12 grands thèmes, 12 grandes portes d'entrée sur les différents comportements humains. Là, ça va du langage au sommeil, aux troubles de santé mentale. Et si on prend par exemple un thème comme ça qui s'appelle le plaisir et la douleur et qu'on va dans un premier sous-thème, parce que chaque thème peut avoir un certain nombre de sous-thèmes, on arrive sur une page de contenu du site où l'on retrouve en haut les deux boîtes de navigation dont je viens de vous parler. Alors ici, on est donc au niveau débutant et au niveau cérébral. Donc, on va simplement vous parler de deux régions du cerveau qui sont impliquées dans ce faisceau de la récompense. Si on clique sur le niveau intermédiaire, on retrouve le même sujet, mais ça se complique un petit peu. On implique d'autres régions, on marque les relations entre ces régions-là. Et au niveau avancé, on montre que c'est encore plus compliqué avec les boucles de rétroaction, les entrées sensorielles, les sorties motrices, etc. Je vais revenir au niveau intermédiaire pour vous montrer qu'on peut aussi descendre au niveau cellulaire et voir les circuits de neurones qui relient ces régions cérébrales-là, comment ça s'agence ensemble. On peut descendre aussi au niveau moléculaire. Et là, on nous présente la dopamine, un neurotransmetteur très impliqué dans la recherche du plaisir. On nous montre comment elle se synthétise, comment elle est relâchée, recaptée. On peut aussi monter au niveau psychologique, voir qu'est-ce qui arrive quand on a un désir et qu'il peut s'accomplir, il peut être satisfait. Qu'est-ce qui arrive quand il ne peut pas être satisfait? Et même au niveau social, dans ce cas-ci, j'ai choisi de présenter quelques philosophes qui avaient mis le concept de plaisir au cœur de leur philosophie depuis l'Antiquité. Donc, je vais prendre un autre thème, étant donné qu'on est dans une conférence sur la santé mentale, je vais aussi vous présenter un thème sur la dépression pour vous montrer d'autres aspects de cette navigation-là. En fait, dans le texte même d'un sujet, je fais souvent au début une phrase ou deux qui permet de résumer ce que j'ai dit au niveau d'explication plus facile. Dans ce cas-ci, ça parle des symptômes, des traitements et des causes de la dépression. Je dis la dépression se caractérise par de nombreux symptômes, blablabla. Si on clique sur de nombreux symptômes, on descend au niveau débutant et où j'y présente simplement les symptômes connus de la dépression. Et de même, à la fin d'une page, dans les derniers paragraphes, j'essaie souvent d'attirer les gens vers le niveau d'explication supérieur, essayer de les tirer un peu vers, par exemple, ici, le niveau intermédiaire, où j'ai parlé plus des traitements, ou le niveau avancé, où je parle plus des causes de la dépression, des facteurs de la dépression. Vous avez remarqué le code des trois couleurs, jaune pour débutant, vert pour intermédiaire et rouge pour avancé. Voilà. Et donc, ici, encore une fois, on pourrait aller voir que, par exemple, au niveau social, on aborde la question du suicide. Je vais revenir au niveau intermédiaire. Aller voir qu'au niveau cérébral, on traite de certaines régions préfrontales qui sont connues pour être impliquées dans la dépression. Au niveau cellulaire, encore là, on va parler de la relation entre les antidépresseurs et la croissance de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Et au niveau moléculaire, on va regarder la sérotonine, ses récepteurs, et on a dans le site des animations qui permettent de mieux comprendre la dynamique de ces récepteurs-là. Là, je reviendrai à mon PowerPoint. Il faut mettre F5, je pense. Hein. Ouais. Oups, là, je fais aller à... Je vais y aller comme ça parce que. Bon. Est-ce que ça marche? Est-ce que les gens aiment ça, ce mode de navigation-là? Est-ce que ça apporte quelque chose de plus? Pour répondre à cette question-là, je veux d'abord attirer votre attention sur le fait que, du point de vue du rédacteur, ça implique qu'à chaque fois que je veux traiter d'un sujet, je dois écrire 15 pages, en fait. 3 pages, 3 niveaux par 5 niveaux. Donc, ça implique des contraintes d'écriture supplémentaires. Mais je crois que, parce que je dois faire un peu comme une histoire, un scénario en trois actes, là, débutant, intermédiaire, avancé, je dois décider qu'est-ce qui va être dans cette trame narrative principale, qu'est-ce qui va aller dans les petits encadrés à gauche que vous avez peut-être vu comme des petits extras, qu'est-ce que je dois mettre dans chaque niveau d'organisation, ce qui n'est pas toujours évident, parfois au niveau social, là, c'est un peu plus aléatoire et subjectif, mais je crois que, j'arrive justement à cette partie de l'exposé où je vais me faire plaisir. En fait, je vais vous présenter quelques petits courriels d'appréciation que j'en reçois à peu près chaque semaine pour montrer que différents aspects, c'est des gens qui disent très bien ce que j'entends souvent. Par exemple, le fait que ça rend l'apprentissage intéressant, le fait qu'il y ait ces niveaux-là, ça rend l'apprentissage de notions complexes plus intéressantes. Le fait que des gens veulent s'approprier cette démarche-là. Il y a des gens qui veulent se l'approprier dans leur démarche d'éducation. Il y a des gens aussi qui, comme ici, ce monsieur qui travaille dans un musée à Paris, qui trouve que ça devrait être répandu dans plus de domaines de connaissances. Évidemment, ça me fait bien plaisir. Là, c'est des choix. J'ai choisi de vous montrer des trucs qui m'ont fait bien plaisir. Il y a des commentaires aussi sur qui viennent de sites web, parce que je pense que notre site est quand même pas mal référencé sur pas mal de sites web. Par exemple, quand on tape le mot « cerveau » dans Google, on sort les deuxièmes après Wikipédia, ce qui montre qu'il y a beaucoup de sites qui pointent vers le nôtre. On nous dit aussi souvent qu'on nous prend pour un McGill staff, alors que, bon, comme je vous ai dit, je suis le seul à rédiger ce site-là. Mais, je voulais amener un point sur le fait que les gens comme moi qui font une synthèse dans un domaine aussi vaste que les neurosciences, évidemment, c'est des choix subjectifs qu'on fait. Il y a d'excellents blogueurs maintenant, scientifiques, des étudiants gradués, des chercheurs qui font ce travail-là, qui le font très bien. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est que c'est sûr que mon petit cerveau limité parvient à faire quelque chose de bien imparfait avec ce site-là, de bien limité. Mais je crois que quand on utilise les hyperliens, qui est le point que je veux amener, cette caractéristique du net, de pouvoir... cette caractéristique qui ressemble un peu à notre pensée, finalement, de pouvoir glisser d'un concept à un autre. Je crois qu'il y a une espèce d'intelligence collective qui peut s'établir, comme on dit, par rapport à ça. Et donc, je vais vous donner des exemples un peu de... en fait, aussi, c'est... j'ai une autre citation, c'est ça qui dit que... En fait, c'est ça, j'essaie de faire autre chose qu'un livre. J'essaie vraiment d'utiliser... entre autres par les liens HTML, le fait que ce soit de briser un peu le carcan linéaire du livre et puis de permettre aux gens d'y aller selon leur pensée leur pensée les appelle. Par exemple, on n'a pas de page lien où il y a une infinité de liens vers d'autres sites web. On va mettre, d'ailleurs, je pense que je vais aller tout de suite sur le site. Une deuxième fois, juste pour vous montrer qu'on n'a pas justement de page. On met les liens vers d'autres sites sur chaque page de contenu, des liens qui correspondent à ce qu'on vient de traiter dans le site. Si je vais par exemple ici sur le thème sur la conscience que j'ai sorti l'année passée au niveau débutant. Donc, c'est ça, ces liens-là, ici, là, ces petites capsules-là, ce sont des liens vers d'autres sites web. Et ceux qui sont là correspondent à, évidemment, ce dont on traite sur la page. Et je voulais vous montrer cet exemple-là. Je vais vous montrer quelques exemples parce qu'à l'usage, à force de mettre des hyperliens, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas tous la même nature. Certains, comme ici, quand j'ai parlé de la conscience, je me suis bien vite rendu compte qu'il y avait tellement de façons d'utiliser ce mot-là qu'il fallait au moins que je présente les différents usages du mot « conscience ». Et ici, je dis par exemple que la conscience, c'est cet état qui peut être modifié par la prise de drogue ou par des troubles mentaux comme la dépression ou l'anxiété. Alors, dans le cas de ces hyperliens-là, on ne va pas cliquer dessus parce qu'on n'a pas le temps, mais vous allez trouver exactement ce qui est écrit. Alors, on va aller, par exemple, sur le thème de la dépression, comme tantôt je l'ai présenté. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Parfois, ici, un petit peu plus tard, on nous dit la conscience, ça peut être aussi la conscience de soi comme une construction autobiographique, ce qui nous donne le sentiment d'être la même personne que la veille. Alors là, j'ai mis en parenthèse le mot « épisodique » en référence à la mémoire épisodique, parce que je trouvais que le concept de construction autobiographique, évidemment, est très proche du concept de mémoire épisodique des psychologues. Et les gens qui cliquent là-dessus, donc, vont se retrouver sur une page où on parle d'autres choses, mais très, très proche du concept qui était mentionné. Un autre exemple ici, c'est quand je parle du libre arbitre ou des processus cérébraux inconscients, ce sont des concepts qui me sont apparus comme incontournables quand j'ai rédigé ce thème-là, mais qui ont été générés pour ce thème-là, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses que j'avais déjà écrites dans le site, donc je fais aussi des hyperliens pour montrer qu'un même sujet, pour aider les gens à explorer un même sujet, et il y a aussi des hyperliens parfois qui sont, par la bande en fait. Ici, il y a une citation d'Oliver Sacks qui compare notre flux de conscience à un film, et il dit que les mécanismes de notre connaissance du monde sont d'un type finalement cinématographique. Or, si on clique sur cinématographique, on se retrouve sur une page où j'ai parlé du cinéma, sur le thème de la vision. Au niveau social, j'ai parlé du phénomène du cinéma et de la télévision comme d'un exemple où notre perception visuelle est mise à profit pour cette illusion-là de mouvement. Donc, l'illusion de mouvement, ici, il y a un autre hyperlien qui pourrait nous amener au niveau psychologique du même thème où j'ai traité des illusions d'optique d'une façon plus précise pour parler justement de notre mode de perception visuelle. Mais il y a aussi un lien qui nous dit que le cinéma et la télévision sont deux médias. Si on clique sur ce thème-là, on se retrouve sur le thème où j'ai parlé de la peur, de l'émotion de la peur. Et au niveau social, dans ce thème-là, j'ai pensé parler du rôle des médias dans ce qu'on appelle les cultures de la peur. Comment les médias peuvent entretenir un sentiment de peur à l'occasion. Juste pour terminer ce petit, pour montrer comment on peut se promener un peu dans le site, il y a un type qui s'appelle Noam Chomsky avec Edward Ehrman qui ont élaboré un modèle de compréhension des médias dans nos sociétés industrielles. Et j'ai cru bon de présenter ce modèle-là au niveau social. Mais comme Chomsky, évidemment, est un grand linguiste qui a un rôle important à jouer en linguistique, si on clique sur son nom, on se retrouve dans le thème sur le langage, et où on présente ces théories. Et on a aussi ici une capsule outil, parce qu'il y a différents types de capsules. Tantôt, je vous ai présenté des capsules liens, mais il y a aussi des capsules outils. Il y a aussi des capsules que moi, je rédige, qui ont un tour vert. Ici, c'est sur la grammaire universelle de Chomsky. Et ça, j'en avais pas parlé tantôt, mais c'est un peu ma réponse, ma façon d'essayer de montrer d'une façon un peu moins lisse, comment se fait la science. La science se fait avec des outils, est faite par des chercheurs. Alors, j'ai des capsules chercheurs où je présente la biographie d'un chercheur, où il est né, ça a été quoi ses études. Des capsules histoire, montrer les différentes étapes qui ont mené à une conception, à un paradigme biologique donné. Donc, c'est des petits à côté qui permettent de montrer le côté un peu plus... le fait que la science est faite par des êtres humains, finalement. Et finalement, à tout moment, évidemment, les gens peuvent accéder à d'autres pages. Par exemple, si quelqu'un clique sur le niveau cérébral, eh bien, il se voit présenter l'amygdale, qui est une structure cérébrale, et d'autres structures cérébrales très impliquées dans la peur. Alors, très vite, quelqu'un peut être entré dans le site en s'intéressant à la conscience, et se retrouver à lire sur l'amygdale parce qu'entre-temps, il a suivi le lien vers le cinéma et puis ensuite vers les cultures de la peur et ensuite... Donc, c'est pour montrer un peu l'espèce de propriété émergente que ce site permet d'apporter. Et puis, je vais terminer en vous disant où est-ce qu'on s'en va un peu avec ça. Euh, Donc, ce qu'on espère faire dans les années qui viennent, ben, en fait, là, je viens d'avoir du financement pour les trois prochaines années. Donc, je vais ajouter du contenu. J'espère ouvrir autant de nouveaux sous-thèmes que ceux qui sont déjà sur le site. C'est pas le contenu qui manque avec le cerveau. J'aimerais aussi essayer d'intégrer un blog sur la page d'accueil, de sorte que à chaque semaine, j'ajoute des liens dans le site, mais ils sont souvent perdus dans les pages. Il n'y a rien qui signale ces ajouts-là. Avec un blog, je pourrais à chaque semaine présenter des études intéressantes qui sortent et qui ont un lien avec le contenu encyclopédique du site. Ça pourrait être un lieu où, à la fois, il y a donc un grand contenu encyclopédique et des liens avec des études récentes qui sortent, dont les concepts peuvent être expliqués par le site, encore là, avec les hyperliens. Et tout ça, évidemment, c'est sous copyleft. En fait, c'est un concept qui permet de permettre aux gens de réutiliser le contenu comme bon leur semble, tout ça dans un souci de partage, de souci premier, finalement, d'Internet, qui est le partage des connaissances. Je vous remercie. For me, it's part time. It's 2 days a week, and I work every morning. I split the two days all the morning of the week. C'est tout. Ah oui, j'ai mis des posters et des dépliants sur la table à l'arrière, si vous voulez en prendre.
Mais qui sont les personnes qui visitent le site?
Je crois justement que c'est vraiment très large. D'après les emails que je reçois à chaque jour, j'ai des gens qui posent des questions pour leurs travaux scolaires. J'ai des gens parfois qui me disent « j'ai eu un accident hier en moto, j'ai la tête qui… » avec un… Là, j'ai ma petite phrase pour envoyer vers des sites médicaux. Des chercheurs qui utilisent souvent dans des domaines connexes, qui utilisent des images, me demandent beaucoup des permissions d'utiliser des animations. Vraiment assez large. C'est ça que je suis assez heureux de ça. Donc.
C'est plus un commentaire.
Oui.
En regardant ta présentation, j'ai l'impression que tous les liens que tu fais entre les différents lieux, c'est comme si on suit toi dans ta tête ou toi tu veux nous emmener. Je ne sais pas si moi, de faire un site comme ça, ça serait des liens que je ferais.
Pas du tout, sûrement pas. Et c'est ça que j'ai mentionné à un moment donné. Je suis bien conscient que c'est éminemment subjectif, moi, les liens que je peux faire. Mais que puis-je faire d'autre? Donc, je me dis, j'en offre plus que le plus possible. Et je laisse les gens, de toute façon, j'imagine que les possibilités de trajet dans le site, c'est une combinatoire qui doit être très vite exponentielle parce que tu vas à une place, t'as, dans chaque page, tu as à peu près 7, 8, 9, 10 hyperliens qui peuvent te mener à des pages où tu as encore 10 hyperliens. Donc, moi, des fois, je me fais prendre, quand je prépare une présentation comme ça, je suis des liens, puis je me fais prendre. Ah ouais, j'ai parlé de ça. Ah ouais, ah c'est vrai, ça se retient. Donc.
Ouais. Je ne connaissais pas du tout le site. Je trouve que ça a l'air très bien fait. Est-ce qu'il y a des utilisations pédagogiques qui sont déjà prévues ou trousses pour les enseignants?
Pas des trousses, mais ce que je suggère dans le menu de la page d'accueil, dans les thèmes présentation, c'est simplement d'utiliser le site un peu comme je l'ai fait ce matin. Il peut très bien s'utiliser avec un projecteur et puis répondre. Pour répondre à des questions dans les cégeps, je suis allé un petit peu. Les gens me posent des questions. Puis très vite, à quelques clics, on est à quelques clics de toute l'information. Donc, on peut trouver une image pour expliquer. Puis souvent, les jeunes, ce qu'ils voient sur l'image, ça leur fait penser à d'autres choses. Et puis, on sent que c'est trop compliqué, bien, on descend au niveau débutant. Donc, on essaie d'asseoir les concepts toujours sur du connu, s'assurer qu'avec le niveau débutant, ça va bien. Puis, c'est l'utilisation qui peut être faite assez simplement. Oui?
À l'énomé de l'enseignement, je travaille à l'école primaire et on a un modèle de neuropédagogie. Mm-hmm. On parle du cerveau reptilien, du système limbique et du cortex. Mm-hmm. Et les enfants comprennent ça très bien. Mm-hmm. Et je sais que les enseignants montrent des PowerPoint à partir des images de votre site.
Ah, oui.
Et les enfants comprennent très bien que quand se comporte d'une façon ou d'une autre, si tu les comportements, est-ce que c'est un comportement reptilien, est-ce que c'est un comportement système limbique, est-ce que c'est un comportement du néocortex?
Uh-huh.
Et c'est sûr que nous autres, on essaye de les amener à un équilibre entre les trois.
Oui.
Et c'est un modèle qui marche très bien pour les enfants. Même dans la classe, il y a un. Ils ont les trois niveaux des cerveaux et quand ils sont très excités, énervés, il y a la bataille et tout ça, ils disent dans quel niveau ils sont. Et ça, c'est un débordement du limbique. Et qu'est-ce que tu dis quand tu parles? Alors les enfants arrivent à vraiment parler ça bien. Très bien, et c'est comme un courant de la neuropédagogie.
C'est ça. Mais je ne sais pas si vous avez vu, on a ce modèle de McLean, là,
oui.
Vieux neuroanatomiste des années 50, qui avait fait ce modèle-là des trois cerveaux, les cerveaux triuniques.
Oui.
Mais nous, tu vois, on l'a mis au niveau débutant parce que ça peut servir à comprendre très vite des choses, comprendre que les structures de notre cerveau n'ont pas tous la même âge. Mais après, évidemment, au niveau intermédiaire et avancé, on nuance tout ça, on dit que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a des liens. Mais évidemment, c'est un bon point de départ. Puis, je suis étonné de voir que des enfants aussi jeunes.
Oui, des fois, ils disent pas, j'ai des bords. Ils parlent de l'émotif.
C'est ça.